Lundi 8 juin 1998, cours de Rav Eman, Shir Hashirim, Montevideo.
On était là. Nafshi yatsa vedavro, bikashti uvlo matzati ukarati uvlo anani. C'est là. Alors, on va recommencer le verset. Patarti ani le dodi, motamo. Je suis allé ouvrir à mon ami. Vedodi Hamak avant. Mais mon ami était déjà parti. Nafshi Yatsa Vedabro. Il y a deux interprétations. Nafshi Yatsa Vedabro. J'ai perdu mes moyens. Nafshi Yatsa Mutamo. Mon âme est sortie, Bedabro, en lui parlant. Ou Nafshi Yatsa Bedabro, de lui parler. C'est-à-dire que j'avais tellement envie de lui parler que Nafshi Yatsa. Bikashtiu Velo Mitsatiu. Bikashtiu, je l'ai recherché. Velom et Satiou, je ne l'ai pas trouvé. Curative, je l'ai appelé. Velo Anani, il ne m'a pas répondu. Alors. On avait parlé dans le verset précédent de cette rencontre entre eux. La rencontre entre Dieu et le peuple juif, où le peuple juif a tardé, et c'est là qu'on y est. Kam Tiani, lorsque je me suis levé, liftor le dodi pour ouvrir à dodi, à mon ami, à Dieu, c'est le peuple juif qui parle. Alors, Patartiani le Dodi, Vedodi Khamakava. Khamakava, il était déjà parti. Nafshi Atsa Abdabro, où j'ai juste eu le temps de lui parler, et Nafshi Atsa Abdabro. Ou alors, Nafshi Atsa Abdabro, si j'avais pu lui parler, Bikashtiu Velo Metsatiu, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Kurativ Velo Anani. On va laisser pour l'instant le Nafshi Yatsa Bedabro. De voir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que la Gemara dans le traité de Shabbat apprend de ce verset. Et on va voir les trois expressions qui sont Patarti Ani le Dodi, j'ai ouvert. Bikashtiu, le mot Levakesh, je l'ai recherché. Kurativ, je l'ai appelé. Donc il y a trois expressions différentes ici. Patarti, j'ai ouvert. Bikashti, donc j'ai ouvert la porte, mais il est déjà parti. Bikashti, je l'ai recherché, velom et sativ, je n'ai pas trouvé. Curativ, du mot licron, appelé velo anan. La première expression, Patarti ani liftor le dodi. Il y a une expression chez les Chachamim, Apoteach petach le chaveron. Ça veut dire celui qui aide l'autre. Celui qui donne à l'autre une occasion. D'abord, on parle de Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a voulu délivrer le peuple juif, a demandé l'autorisation à son beau-père Yitro. Pourquoi ? Parce que Apoteach petach le chaveron nafshu chayev lo. Celui qui ouvre à l'autre, l'autre lui doit sa vie. Donc, petach, c'est dans le sens aider quelqu'un. Patarti ani le dodi, ve dodi chamakava. Il faut voir pourquoi, ici c'est dans le sens, potéach, normalement j'ouvre la porte à quelqu'un, c'est dans le sens d'aider. Ici, je ne sais pas qui tu aides. On n'aide personne. Deuxième expression. Bikashti. Bikashti, ça a l'air du contraire. C'est pas moi qui a voulu aider, l'autre n'a pas voulu. C'est moi qui ai cherché et qui n'ai pas trouvé de résultat dans mes recherches. Quelle est la différence entre les deux? C'est que lorsque je dis liftoir, c'est à la demande de l'autre. Lorsque quelqu'un demande, alors le fait de bien vouloir répondre, ça s'appelle l'histoire. Tout le monde connaît l'expression Hashivenu Hashem Elecha Venashu. Hashivenu, fais-nous revenir. Comme si le plan n'était pas du nôtre. Nous, on veut bien répondre. Hashivenu Hashem, fais-nous revenir, Venashuva, et on reviendra vers toi. Mais c'est pas que moi je demande. Je veux bien. Qu'est-ce que ça veut dire, je veux bien? C'est que après la Avera, après le fait de s'être mal conduit, puisqu'on a dit que c'était ça le sens du verset, pas châti et koutamti, je me suis déjà déshabillé, comment est-ce que je vais me rhabiller? Je me suis lavé les pieds, pourquoi est-ce que je vais les salir? On est obligé de venir dans le sens du mot patar. On va essayer d'expliquer pourquoi. Il est écrit dans la Gemara, dans le traité de Yoma, que celui qui fait tchouva, qu'il ou écrive korban, c'est comme s'il avait amené un sacrifice. Et qu'il doit Kadosh Baruch Hu, il lui doit une toda. C'est, on lui doit un remerciement. Normalement, on parle d'un sacrifice d'expiation. Ça fait une bêtise alors, mais ici non. Devant le Maharal, on dirait que celui qui fait tchouva, il fait une tova au bon Dieu. Et il répond le Maharal, oui. Pourquoi? Il dit parce que lorsque quelqu'un a été yotsemina seder, de sortir de l'ordre, lorsqu'il revient dans l'ordre, c'est facultatif, puisqu'il n'obéissait plus à l'ordre. Essayez de comprendre. Lorsque quelqu'un sort de l'ordre, il sort du CDR, pour lui, l'ordre est devenu étranger. Donc tu peux lui dire, c'est normal de revenir dans l'ordre. Tu lui dis, pour toi, c'est quelque chose de facultatif. C'est quelque chose de ta bonne volonté que de revenir dans l'ordre. Parce que tu ne peux pas recevoir les ordres puisque tu es en dehors de l'ordre. Il dit, celui qui a fait une avera, il est sorti du CDR, il est sorti de l'ordre. Donc, il est normal de dire que lorsqu'il veut bien rentrer dans l'ordre, ça dépend de sa propre bonne volonté. Et il n'y a rien qui l'oblige. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire tchouva, au contraire. Parce que comme il est en dehors des obligations, le fait de revenir dans un cadre qui est celui des obligations, c'est quelque chose de volontaire. Et c'est quelque chose qu'on appelle en hébreu l'iftoar. Potéar bitchouva tekhila. On est potéar bitchouva. Potéar bitchouva, ça veut dire que on ouvre ou on s'ouvre à la tchouva. C'est un acte qui est obligé d'être un acte, c'est pire que facultatif. C'est un acte volontaire. Ça ne peut pas obéir à un ordre puisque tu te situes en dehors de l'ordre. C'est comme si quelqu'un peut sortir du jeu. Alors, il n'obéit plus aux doigts, aux lois. À partir du moment où il veut faire partie du jeu, on ne peut pas lui dire, mais c'est le jeu qui fasse partie du jeu. Tu sauras parce qu'il est sorti. Celui qui a fait la avéra, c'est que ça ne dérange pas de sortir de l'ordre des choses. Lorsque tu reviens, tu ne peux pas dire, mais je suis obligé de revenir. Il n'y a personne qui peut t'obliger, puisque tu es sorti des obligations par la avéra elle-même. Tu n'es plus quelqu'un à qui on peut donner des ordres. On ne peut donner des ordres qu'à celui qui se situe à l'intérieur. Et celui qui se situe à l'extérieur, qui c'est qui va lui donner des ordres? C'est ça ce qu'on appelle en hébreu l'iftor. Ça veut dire que le retour après la faute, le retour vis-à-vis de quelque chose qu'on appellerait l'ordre, on appelle ça la mitzvah, le cadre de la mitzvah, ça ne peut se faire que par le volontariat. C'est un acte gratuit, un acte volontaire. Ça ne peut pas être un acte obligé, puisque tu es sorti de ceux à qui on pouvait adresser les obligations, puisque l'obligation qu'on t'avait adressée avant, tu l'as transgressée. Donc à partir du moment où tu es... Qu'est-ce que ça veut dire faire partie de l'intérieur, faire partie de l'extérieur? C'est que lorsqu'on fait partie de l'intérieur, on est soumis à certaines règles. Lorsque délibérément, on ne se soumet pas à ces règles, ça ne veut rien dire d'avoir une règle qui vous oblige à revenir. La même règle qui ne t'a pas empêché de sortir, elle n'est pas contraignante pour toi. La Torah demande que la contrainte vienne de la personne. Dès que tu sors de cette contrainte, tu es devenu quelqu'un de libre. Vous savez que c'est pourquoi le mot chofshi en hébreu, c'est un mot qui est la terreur des religieux. C'est-à-dire qu'on n'admet pas un mot pareil. Pour dire que quelqu'un est laïque, pour dire que quelqu'un n'est pas religieux, on a inventé un mot, le mot chofshi. Chofshi, ça veut dire libre. Ça veut dire que la personne est en dehors du système. Chofshi. Ça, c'est la chose la plus difficile. Pourquoi? Parce que si tu es en dehors du système, c'est que le dialogue est rompu. La avéra, c'est justement être en dehors du système. Donc on va voir que pour revenir, il faut être potéar. Potéar, ça veut dire il faut ouvrir la porte, il faut se remettre sous le coup de l'ordre. C'est un acte facultatif. Tu ouvres ou tu ouvres pas, c'est ton problème. Mais la Torah ne peut plus te dire tu ouvres. Parce que la Torah, tu t'es mis de l'autre côté. Donc tu es obligé, par un acte gratuit, de te remettre, on dirait, sous les ordres. Quelqu'un a déserté, il ne peut pas faire la guerre tout seul. Il est obligé de se remettre sous les ordres et après, on pourra de nouveau lui donner les ordres. C'est ce qui est marqué dans le mot poter. Mais maintenant, il y a plus loin que ça. Bikashtiu. Le vakesh en hébreu veut dire demander. Mais attention. Bikashtiu dans le sens de demander, s'enquérir d'eux. En mauvais français, on dit on demande après quelqu'un. En hébreu, on dit comme ça. Bikashtiu. J'ai demandé après lui. Je me suis renseigné pour savoir où est-ce qu'il était. Velo metsati. Ça veut dire qu'il y a une recherche. Curative, je l'ai appelé. Velo ana. C'est comme s'il y avait trois stades. On va essayer de voir quels sont ces stades. Quelqu'un veut bien rentrer dans le système. Mais Bikashti ou Velo Matsati, il est très possible qu'il essaye de se remettre, mais qu'il ne trouve pas, parce qu'il est sorti justement du système. Bikashti ou, je cherche après, je vais derrière, et mais Kerativ, c'est la personne que j'aperçois de loin, Velo, et celui-ci, Lo Anani. C'est pas qu'il m'a pas entendu. C'est pas que je l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé. Donc il y a deux ordres. Il y a le premier, Patarti. On va voir après à quoi ça correspond exactement. Bikashti, Velo Metsavo, au commencement on cherche, on trouve pas. Mais après on va trouver, mais il te répondra pas. C'est comme ça qu'on rentre à l'intérieur. Ou alors que on entérine la sortie, on voit qu'on est sorti finalement. Alors on va essayer de comprendre. Quelles sont les raisons qui font que quelqu'un sort de cet ordre qui est l'ordre de la mitzvah? On parle ici de ce qu'on appelle bemezid. Bemezid, ça veut dire exprès. On ne parle pas de celui qui fait la vera parce que il ne connaît pas. Ou... On parle de celui qui fait exprès. Il a décidé aujourd'hui de ne pas respecter. Voilà. Il a décidé. Très bien. Quelles sont les raisons qui le poussent à le faire? Normalement, il y a trois raisons qui poussent l'homme à faire la vera. La première raison, c'est que l'homme ne se sent pas capable. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais me casser la tête pour faire telle et telle chose? De toute façon, moi, on appelle ça en hébreu le yush. Yush, ça veut dire, je sais très bien que c'est interdit, mais j'en suis plus là. Voilà, je suis passé à la vitesse supérieure. C'est même plus mon problème, tellement je me situe plus par rapport à la chose. Il y a celui qui a perdu la sensation de ce qu'on appelle le onesh. Vous savez que chacun sait que lorsqu'on transgresse une mitzvah de la Torah, on est soumis à un certain règlement. C'est ce que le Maharal appelle le seder olam. Il y a un moment où quelqu'un, il en a tellement assez que ça ne lui fait plus peur. Il n'a plus de possibilités. Ça veut dire celui qui n'a pas de la yira. C'est celui qui a perdu. Celui qui dit je m'en fiche. Pourquoi? Il peut avoir énormément de raisons. La plupart des raisons sont je ne me sens pas capable. On a dit, c'est la première raison. Deuxième raison, je n'ai plus peur. Pourquoi j'ai pas peur? Parce que, de toute façon, là aussi, je m'en sors pas. La troisième raison, ben, on m'a dit, celui qui dit, Erte Vachou. Erte Vyom Kippur Mochaper. C'est quoi? Maintenant, j'ai absolument besoin de faire la vera. Ça arrangera après. Il y en a qui pensent s'arranger avec le bon Dieu, il y en a qui s'arranger, on se trouverait une façon. Ça veut dire que, au plus bas, c'est celui qui ne se situe plus au stade de l'Avera. Pourquoi je vais respecter ça alors, de toute façon? Ce qu'on appelle le Yush. Au plus haut, c'est celui pour lequel c'est trop dur. Il n'a plus la peur du honneur. Je ne sais pas que je ferai bien, mais comme c'est dur, on laisse tomber. Ah, tu sais bien que c'est pas grave. Et le troisième, c'est celui qui a trouvé un arrangement avec sa conscience. Il a dit, je vais le faire. Et puis, il doit bien avoir des moyens de s'arranger. Erte Vachou ou Erte Vyomki pour me rappeler. Ce sont les trois façons de faire une avéra, ce qu'on appelle le méside. On va essayer de comprendre en quoi c'est quelque chose qui est en dehors du CDR et en quoi ces trois choses-là, elles sont appelées par chacun un autre nom. Il est écrit dans le Midrash Tanhuma, dans la paracha de Truma. Il est écrit ceci. C'est ce qui a marqué à propos du Mishkan, lorsque on a érigé le Ohel Moed, le Mishkan, dans le désert, et qui a vécu jusqu'à l'avènement du premier temple sous le roi Salomon. À ce moment-là, il est écrit dans la Torah une phrase « Ve'asita atse shittim omnim ». Va'asita atse shittim, tu feras mot à mot des bois de shittim, omnim, qui tiennent debout. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot omnim? En hébreu, si c'est pour dire qu'ils doivent être de haut en bas, on n'a pas besoin de se servir du mot omdim. Ce mot omdim est bizarre. Il y a une Gemara dans le traité de Yoma et dans le traité de Souka. La Gemara dit ceci. Atse shitim omdim. Omdim le olam ou l'olme olam. Ils sont toujours debout. Ok. C'est de là qu'on voit que le Mishkan n'a jamais été détruit. Remarquez qu'un Mishkan, Nignaz, il a été enfoui. Mais il n'a jamais été détruit. Alors que les deux Beth Amikdash ont été détruits deux fois. D'accord. Son Andin, c'est pas seulement dans le futur, c'est aussi dans le passé. Alors le Midrash dit, pourquoi on dit Atsechitim, Omdim, ils sont Omdim? Parce qu'en vérité, Atsechitim, c'est Yaakov Avinu qui les a plantés. Et il les a plantés dans le désert, sur le chemin de Mitzrayim, lorsque lui est descendu en Égypte, parce qu'il s'est dit que ses enfants viendront, et au sortir de Mitzrayim, ils auraient besoin de faire le Mishkan, et il a planté ses Atsechitim. Très bien. Et dit le Midrash là-bas, Bashitim Khatou, c'est à Shittim que les enfants d'Israël ont fait des fautes. C'est l'histoire des Benot Moab, des filles de Moab. Bashitim Loukou, il y a eu une magéfa, une maladie qui a emporté 24 000 juifs. Ouba Shittim Nit Kapru, et c'est avec ce bois de Shita, le Mishkan qui a été fait dans le désert, Nit Kapru, qu'ils ont pu avoir la kapara, c'est-à-dire se faire pardonner. Vous savez qu'en hébreu, le mot Shita, c'est un mot double. Le mot Shita, il veut dire ordre, système. Par exemple, dans la Gemara, lorsqu'on dit « c'est pas juste », on dit « mochlef et achita ». Shita, ça veut dire. Ou ça veut dire la ligne. Dans le guet, shita rishona, c'est la première ligne, deuxième ligne. Donc le mot « shin »« tête » et cette racine-là, c'est le principe. Et le mot Shita aussi, c'est le mot qui veut dire sortir de l'ordre. Parce que quelqu'un qui est un peu bête, un peu bizarre, on dit ce mot-là, c'est un chanté. Il sort de l'ordre. Un hadas, il peut être shoté, d'après la halakha. Le hadas. Les hadassim, ils doivent avoir trois feuilles. Et lorsqu'il y a des feuilles entre, ou il y en a plus, on appelle ça le hadas shoté. Il est bizarre, il sort de l'ordinaire. Ça veut dire que le mot shita et le mot shoté, ce sont des mots qu'on inverse pour les besoins. C'est pour ça que dans la parole de la semaine dernière, vous avez souvent lu, marqué Ish ki yiste, ki tiste, ishto. Lorsque sa femme, la femme sota, c'est la même racine, shim, tête, ei, la femme sota, c'est la femme qui a dévié. Elle est sortie de la ligne. Donc la ligne et le fait de sortir la ligne, c'est le même mot. Seulement, si on regarde dans le noir, dans le traité de Sota Dav Gimel, vous verrez que Resh Lakish, il nous dit une chose extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Ish Kitis Te Ishto, que la Avera, on emploie le mot sauter ou shoté, qui veut dire sortir de la ligne, Melamed chez En Adam Khoté, un homme ne faut jamais, il a une ken, nichna sabo, ruach shtut. Un homme ne faut jamais que si il est entré en lui, ruach, un vent, shtut, de folie. On dévie parce qu'il y a un, on est fou. Donc sur les fonds, on est responsable. Si on est responsable, pourquoi est-ce que on a encore une peine? Alors dans tous les commentaires, vous verrez, c'est parce que tu as laissé entrer en toi ce roi, tout ce vent de folie. Il ne fallait pas. C'est quoi ce vent de folie? Roi, tout. Le vent de folie, c'est ces trois choses. C'est que si on demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu crois qu'il y a des indulgences? Aujourd'hui, on parle beaucoup des indulgences. Tu crois qu'on peut s'arranger avec le bon Dieu? Tu crois qu'on peut mener la vie qu'on veut et qu'après, il y en a qui pourront s'arranger? Ça ne fait pas partie de la chita. On va dire même plus que ça. Tu ne peux pas utiliser le système contre lui-même. C'est vrai qu'il y a la tchouva. Mais si tu penses à la tchouva avant de fermer la vera et mort, tu as utilisé le système contre lui-même. Et c'est ça la déviation, tu es devenu un choté. Mais le choté utilise le système. Vous comprenez? Ou alors celui qui me dit, moi, de toute façon, qu'est-ce qui va m'arriver? Ok, allez, je suis d'accord. Tu es un choté. Ça veut dire que la grandeur de la peine, ça annihile tous les efforts que tu pourrais faire. Le système se met en ch'tout. Ou alors ce qu'on appelle le yush. De toute façon, je ne suis pas capable. Je ne vais pas en crever toute ma vie. De toute façon, je m'en trouve les nœuds. Alors, autant profiter. C'est que la chita, elle devient chez toi. Elle élabore chez toi un ch'tout. C'est ça ce qu'on appelle roi ch'tout. Le roi ch'tout, ça veut dire que le système même que la Torah a mis en place, il va se retourner contre toi. Parce que tu vas l'utiliser pour t'en faire un allié, pour être plus astreint au mitzvah de la Torah. On appelle ça Roar Shtut. Parce que c'est vrai que c'est bête. Celui qui vient, qui dit, Ertev Yom Kippur Mechaper. Le Rambam dit, En maspikim biado la chouf. En maspikim biado. On ne lui donne pas la possibilité de faire tchouva. C'est-à-dire qu'il pourrait faire tchouva, mais on ne lui donne pas la possibilité. On avait expliqué pourquoi une fois, parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir Yom Kippour? Mais toi, tu peux pas, puisque tu as déjà pensé Yom Kippour avant la faute, et maintenant c'est Yom Kippour, pardonne-moi. Parce que tu vas te dire, mais je savais avant, donc tout ce que je peux me renseigner. Comment est-ce qu'on va faire, tu vois? Il faut qu'on arrive à une naïveté telle qu'on oublie que le Yom Kippour rachète les fautes. Puisqu'on a vicié le système. La même chose, celui qui tombe dans le yush à cause des obligations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu examines ton système, tu t'es mis par rapport à une chita qui te rend tellement incapable de faire quoi que ce soit que plus rien n'a de valeur. On appelle ça l'iouche. C'est les gens qui, lorsqu'ils ont pris un coup, il y a une logique qui fait qu'ils commencent à prendre de plus en plus de coups. Et la même chose, la logique, le contraire. Lorsqu'ils sont sortis d'un coup, ils commencent à se sortir de tous les autres coups. Parce que la dynamique fait que maintenant, ils n'ont plus peur des coups, mais dans l'inverse. Parce qu'il y a des gens qui n'ont plus peur des coups, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir tellement de coups que de toute façon, c'est plus la peine d'avoir peur. Mais en réalité, ils ne savent rien du tout. C'est ça le système qui pervertit le système de la Torah elle-même. On peut avoir un seder, on peut avoir quelque chose qui fait que on puisse en sortir et on a des repères, mais à condition de ne pas sortir des repères. Quand on sort de repères, on est un choté. On est quelqu'un qui, dans sa tête, a vicié le système. Mais d'un autre côté, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire avec celui qui vient et dit « À quoi ça sert à moi que je me force ? Faire telle et telle mitzvah, faire telle et telle chose, m'avertir dans telle et telle chose. De toute façon, je n'ai pas de chance de m'en sortir. Je ne suis pas capable de faire tout. Je ne suis pas capable de faire telle et telle chose. » Qu'est-ce que je veux lui dire ? C'est ce qui est marqué ici. Patarti ani le dodi. Il faut être potéar. Potéar, ça veut dire, il faut bien vouloir faire partie du système. Tu es à l'extérieur. On te demande une chose. Patarti. Liftoar, ça veut dire bien vouloir faire partie de cette chita-là. C'est quoi la chita du peuple juif? C'est qu'on a une certaine mission, chacun. Et qu'on n'est pas par hasard dans la place où on est, et qu'on doit arriver à ce qu'on appelle le tikkun, c'est-à-dire que on doit arriver à arranger les choses et à devenir quelqu'un dont ça pouvait être le but de naître. C'est ce qu'on appelle généralement le tikkun, c'est-à-dire que quelqu'un a accompli dans sa vie, par l'intermédiaire des mitzot, de l'étude de la Torah, il a pu comprendre et il a pu devenir le maximum de ce qu'on lui a demandé de devenir. Mais il faut qu'il veuille bien rentrer dans le système. Chaque fois qu'il va dire « Ah non, je suis incapable, il y en a trop, il y en a ceci », c'est qu'il ne veut plus rentrer dans le système. Parce qu'au fond, il sait très bien que c'est lui qui est poté à le système. Ça ne veut rien dire qu'il est trop pour lui. Vous comprenez ? Tu as ouvert la porte. Tu ne peux pas dire qu'elle est plus ouverte que ce que tu n'as ouvert toi. C'est en cela que c'est faux. Le roi Ashtout, ça s'appelle un Ashtout parce que c'est toi qui ouvres. Le bon Dieu ne te juge pas plus que ce que tu conçois. Tu conçois que c'est trop, c'est trop. Si vraiment tu conçois que c'est trop. Mais en vrai, tu conçois que c'est tout à fait possible, sinon tu dis que c'est trop. C'est ça ce qu'on appelle le Ashtout. On ne peut pas en même temps ouvrir soi-même et constater que c'est trop. Pourquoi? Parce que personne n'est obligé. Patarti ani le dodi. Personne n'a jamais obligé personne. On te dit c'est ça la règle. Et la règle est selon ce que tu conçois. De concevoir beaucoup et de dire que je peux pas, c'est pervertir le système. La deuxième chose c'est Bikashtiou velo metsatiou. C'est le type qui essaye, essaye. Velo metsatiou, il n'arrive pas, il court. Plus il va, plus il sent que le monde lui fuit. Alors qu'est-ce qu'il dit? C'est celui que il arrête de courir. Il voit que le système n'est pas pour lui. C'est le deuxième. C'est celui qui vient et qui n'a plus peur du honnêche. Il dit, je vais recevoir, et bien qu'il me donne sur la tête. Bikashtiv, on fait l'entretien. J'arrive pas. L'effort qu'on me demande, ou l'effort que je me demande, parce qu'en fin de temps, il n'y a que toi qui te demande, personne ne te demande, c'est selon ce que tu conçois. C'est quelque chose qui est trop fort. Je peux faire encourir n'importe quoi. Et la troisième chose, velo anani. Ça veut dire quoi? Je cherche, Kerativ, velo anani. Il ne répond pas. Eh bien oui, parce que s'il y a toujours un système qui fait qu'on te répond toujours, et que dans ce système-là, RTV à jour, tu sais que tu t'en sors, parce que chaque fois que tu appelles, on va te répondre, le système devient caduque. Il faut une certaine naïveté. On ne peut pas penser à la tchouva avant déjà de faire la avera. Si on y pense, c'est que la tchouva c'est un truc. Et le truc, il ne marche pas, à partir du moment où il devient un truc. De même que la punition. À partir du moment où on s'en fiche. Parce que c'est devenu tellement dur. Ça n'a plus de pression. De même la grandeur ou la capacité. À partir du moment où on a décidé qu'on n'est pas capable. Ou que ce n'est pas pour nous. C'est ça ce que le Maharal appelle se situer en dehors du céder. Nous on appelle ça en hébreu le choté. Ou qui tisté, le déviationniste. Celui qui dévie du système. Mais maintenant, il y a de quand même avoir une réponse. Parce que finalement, c'est quand même vrai. On va utiliser les trois. Il y a quelqu'un qui devant la verra, il n'a pas de force. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit, bon, ben, je vais le faire, et on verra Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il peut faire? À part de dire que tu te situes en dehors et dedans, et qu'on ne veut pas utiliser le système, parce que tu deviens un choté, ça se appelle Rorschtout, qu'est-ce que je peux lui dire? Il n'a plus pensé comme ça. Pourquoi est-ce qu'un homme fait une avéra sciemment? À cause de ça, ou de ces trois choses. Ou il se dit, bon, Yom Kippour, c'est fait pour les pêcheurs, alors il faut qu'il y ait des pêcheurs. Comme quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, si personne ne faisait d'Averot, alors pourquoi le bon Dieu aurait inventé la tchoua? Donc il faut faire quelques Averot comme ça. C'est pas pour rien. Il y a celui qui vraiment qui dit qu'il n'est pas capable de tout faire. La réponse, elle est dans les chitim. La Torah, c'est une chita. Il y a un ordre pour tout le monde. Et en même temps, on peut se situer en dehors de l'ordre. C'est ça qui est incroyable. L'ordre pour chacun, on doit croire qu'il est différent. Ce que le monde demandera l'un, il ne demandera pas l'autre. Et en même temps, chaque fois que je dis ça, il ne va pas me demander. Je vais être obligé de le justifier. Parce que peut-être que ça, il va te demander. Ça veut dire quoi? Nous, on se serait attendu à quelqu'un qui doit se mesurer à la mitzvah et la vera, à ce que les gens soient naïfs. Naïfs, ça veut dire dans le sens où ils font les choses honnêtement. Ils font telle et telle mitzvah parce que c'est une mitzvah. Ils font attention à telle et telle avera parce que c'est une avera. Mais on voit que non. Comment est-ce qu'ils font la plupart des gens? Ils choisissent à l'avance le groupe dans lequel ils veulent appartenir et qui a choisi tel et tel mitzvah et tel et tel avera, et il va se justifier par rapport à ce groupe. Hein? Le sous-groupe. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait autant de sous-groupes que de personnes. Mais on va justifier par rapport à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on va créer un système contre le système. Alors il faut bien s'expliquer. Vous savez qu'il y a deux sortes de gens qui sont dangereux dans la vie. Et avec lesquels vous n'avez jamais raison. C'est les communistes et les psychiatres. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que avec le communiste, vous n'avez jamais raison, parce que chaque fois que vous lui dites quelque chose, Il dit, bah, c'est justement, voilà, la preuve. Si tu étais communiste, tu ne parlais pas comme ça. Donc, on a tellement bien ferré le système que vous êtes toujours en dehors du coup. Et si vous êtes à l'intérieur, vous avez accepté le système, vous ne protestez jamais. Donc la protestation elle-même montre que vous êtes quelqu'un qui est en dehors. Donc on s'en sort plus. Le psychiatre, c'est le contraire. Chaque fois que vous lui posez une question, il vous dit déjà dans quel système vous êtes. Il vous enferme dans un système. Donc vous n'en sortez pas non plus. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez dans ce système, il était normal que vous posiez la question, puisque... C'est-à-dire que si quelqu'un est enfermé dans des systèmes et que vous parlez avec eux, une fois un psychiatre, je lui ai parlé d'Adam et d'Ève. Il m'a dit, ça ne m'étonne pas d'eux. J'ai dit, de toute façon, si j'avais parlé de Yosef et ses frères, c'est la même chose. Il m'a dit, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu parles de Joseph et de ses frères, on te dit, mais tu te rends compte? Ça se voit sur votre figure. Ça veut dire qu'on a toujours quelque chose à vous reprocher parce que on vous a classé dans un système. Mais nous, en vérité, par rapport à la Torah, on fait la même chose. C'est qu'on classe la Torah dans un système dans lequel on est toujours dehors et pour lequel on a toujours de bonnes raisons d'être dehors du système. C'est ça ce qu'on appelle le roi Shtout. C'est ça ce qu'on appelle Atse Shittimandim. Et là, on est obligé d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui me dit finalement que je ne peux pas être en dehors de ce système? Voilà, peut-être j'ai raison. Voilà. Le monde est la mi-temps, étant de mitzvot. Mais je ne suis pas capable. Allez, laissez-moi tranquille. J'ai essayé. Voilà. Type te dit, trois chalotes de suite que j'essaie d'arrêter de fumer, j'arrive pas. Ça y est. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va pas se tuer, on va pas se bagarrer, on va rester bons amis. Bon, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Je ne suis pas un juge du chalot, hein, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va répondre à une personne pareille? Le fait que ce soit Yaakov Avinu qui est planté les Chittim, c'est-à-dire la Chita, et le fait que le Mishkan n'ait jamais été détruit, c'est le sens du Brit. Le Brit, ça veut dire qu'il y a une alliance entre le Juif et Akadosh Baruch Hu, et qu'il n'y a aucun Juif qui pourra jamais sortir de ce système. C'est ce qu'on dit dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin. Israël, afalpi shechata, Israël. On ne sort pas du système. C'est impossible. Le système, il a été commencé par Yaakov, il a planté les Chittim. C'est-à-dire qu'il avait prévu la Avera, il a prévu la Kapara. Et si deux fois le Beth Amidash a été détruit, le Beth Amidash, oui. Mais le Mishkan, non. Parce que le Mishkan, il en a atse Chittim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mishkan n'a pas peur de la galoute. Il n'est pas obligé d'être présent tout le temps. C'est pas comme le Beth Amidash où c'est un point politique de ralliement. Le Mishkan, ça vit dans la galoute. C'est pour ça que Rabbi Tzadok HaKohen, dans un livre qui s'appelle Rossi, c'est là, il explique. Et il dit pourquoi le Mishkan n'a jamais été détruit. Parce qu'il est écrit dans le Zohar que Shrinta de Galuta. Chaque fois que le peuple juif est en galoute, la Shrina elle-même est en galoute. Qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina elle-même est en galoute? Il y a une nouvelle perception de l'éternité du peuple juif. C'est notre perception. Ça veut dire que le peuple juif évolue et il arrive à vivre aussi en galoute. Shrinta de Galuta. Il n'y a pas le Terutzim. Tu peux dire, mais ça y est, on a perdu une fois, deux fois, ça y est, la galoute. Non, ça durera toujours. Puisque ça durera toujours, c'est que le bon Dieu a adapté les choses à la galoute. C'est ça le sens de ce qu'on dit, que le Mishkan a tséché Timondi. Il est toujours au même. Le Mishkan, on peut le trimballer avec soi. Le Mishkan, il n'a pas besoin de politique, il n'a pas besoin d'endroit. Il peut aller avec chaque juif là où il est. C'est ça ce qu'on appelle le Brit, Kakadosh Baruch Hu, l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu a scellée avec le peuple juif. Bal Nidar, Menon Nidar, c'est-à-dire que tout le monde reviendra un jour. C'est-à-dire que lorsque tu viens et tu as affaire avec ton roi Ashtut, il faut te dire que de toute façon un jour tu feras la mitzvah. Alors il y en a, ils ont peut-être besoin d'un ce qu'on appelle un Gilgul, ah ben ils vont revenir. Ils ont besoin du Gehin, on ne connaît pas tous les moyens qu'a le bon Dieu pour que la Neshama traverse ce qu'elle doit traverser pour son Tikkun. On ne connaît pas nous. Mais on sait que ça arrive à tout le monde. C'est-à-dire, c'est maintenant, c'est après, c'est... On ne peut plus sortir de cette chita. Israël, afal pi shechata, Israël. Ça n'existe pas de juifs qui se sortent de cette problématique. Il y a celui qui va dire, moi, patarti, j'ai bien voulu, je suis rentré dans le système. J'ai bien voulu. Seulement, il y a marqué dans le verset, Dovi Khamakaba, il est parti, bien sûr il est parti. Parce que c'est pas un système, ça. C'est vrai que gentiment tu es venu, et je mentis, vous avez dit tu veux faire, tu vois. Mais ça marche pas, ça. Parce que tu le savais avant la faute. Ça veut dire qu'on doit attendre pour être un bon juif de pouvoir faire une faute sans se rappeler de Tchouva. Parce que si on se rappelle chaque fois de Tchouva, on a perverti le système. Il n'a plus de pression sur nous. Puisque finalement, Yom Kippour va être Mechaper. Donc tu dois être potéard. Mais tu dois savoir que le bon Dieu peut partir. Il n'est pas obligé d'être là toujours. Bikashtiou, je peux rechercher. Velo Metsatio. Curative Velo Anani. Il peut ne pas répondre. C'est-à-dire qu'il peut arriver des moments. Et une façon de faire. Parce qu'il n'existe pas de juif qui ne soit pas sensible à la Torah lorsqu'il la connaît. Donc comment est-ce qu'il va s'en sortir avec sa conscience? Comment il va s'en sortir avec sa Torah? Il va trouver des trucs. Ce truc-là, ça fait de lui un choté. C'est pour ça qu'on appelle les Atsé Shita Shiti. Pourquoi? Parce que le cèdre du Liban, il y a marqué là-bas qu'il a 9 noms, 7 noms. Il en a 7. Il s'appelle Hadas, il s'appelle Borosh, il s'appelle Tidor. Il s'appelle aussi Shita. On a choisi cette variété qui s'appelle Shita dans les cèdres pour qu'on sache que il n'existe de Avera que si il rentre le roi Ashtut. Il n'existe que quelqu'un qui s'illusionne. Il a trouvé la parade. Il a trouvé Kaviachol comme si ça pouvait exister, être sortir du cercle, sortir de l'ordre. Ou alors il a trouvé son ordre. Et ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire du Bikashtiou Velo Metsati. Il y a des gens qui me disent, moi j'ai choisi, je suis religieux, je suis ceci, très bien, très bien, très bien. Alors quel est le problème? Parce que la Torah, ça ne doit pas et ça ne peut pas se vivre comme le groupe, comme le sous-groupe, comme la définition qu'on veut lui donner. Ça, c'est il va mettre en chita. Chaque fois que je donne une chita, j'ai un workout. C'est la même chose que si je dis jusque-là j'arrive, là j'arrive pas. Jusque-là je fais, ça je fais pas. Je me définis. Il n'existe pas d'homme moins naïf et plus pervers que celui qui se définit. Si quelqu'un vous dit moi j'appartiens à l'école, faites attention. Avec celui-là, vous terminez jamais. Parce qu'il n'y a rien qui rentre, puisqu'il appartient à l'école de tel et tel. Donc il a déjà défini ses réactions, ses façons de concevoir, ses sentis. Il a tout défini, tout. Il fait partie de l'école. Et c'est une grande attention pour les gens, pour lui dire, oui, d'où vous avez étudié, vous faites partie de quoi, chassid, tout. Pourquoi est-ce qu'il veut vous enfermer dans un homme qui pense normalement et qui est ouvert à tout, il fait partie de rien du tout. Il peut vouloir lui faire partie d'un sous-groupe parce que ça peut l'aider de telle ou telle façon. Mais il ne peut pas réduire le judaïsme à ce sous-groupe. D'aucune façon. Et à partir du moment où il le réduit, c'est là que on peut commencer à parler de Shtout. C'est impossible autrement. Il existe des choses qu'on peut entendre et qu'on doit pouvoir entendre quand on les entend. Ah, tu t'es fermé à ça. Tu es devenu comme un communiste. C'est terminé. Tu t'es fait ta petite chita. Dès qu'on veut rentrer dans le système, on est fichu. On doit pouvoir. Ça m'a toujours étonné. La plupart des juifs, on n'arrive pas à les déstabiliser. Il y a pourtant des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Il y a pourtant des choses troublantes. Pourquoi on n'arrive pas à déstabiliser les gens? Parce qu'ils ont perdu la naïveté, parce qu'ils font partie du groupe. Ils ne pensent pas eux-mêmes. Quand ils ont un problème, ils se disent ben, le groupe a bien une réponse. Ou on fait partie de quelque chose qui a une réponse. Donc on ne peut pas les déstabiliser, mais ce n'est pas normal. Quelqu'un qui entend une bonne question, il ne devrait pas pouvoir vivre pendant le temps où il a la question et ne trouve pas la réponse. Ça devrait le perturber. Mais non, nous, ça ne nous perturbe pas trop. Pourquoi ? Parce que, en vérité, on n'a pas vraiment des questions. On fait partie d'un groupe qui peut avoir une question, trouver la réponse. C'est pas grave. C'est ça ce qu'on appelle le roi Shtout. C'est pour ça qu'on comprend ce qu'il a dit Reish Lakish. Reish Lakish vient et dit En Adam Choté Elam Kenichin Sabo Arshut. Il faut que ton système, pour pouvoir faire une avéra exprès, il faut que ton système il soit totalement faussé. Ou parce que tu as parlé de Yom Kippour, tu as parlé de la Tchouva, tu as parlé, donc tu n'es plus tout dans le système. Tu es devenu pervers. Ou parce que si tu n'as plus de pression, parce que tu dis allez-y, allez-y, allez. Ou alors parce que tu ne te sens pas capable, tu dis pas pour moi. Moi, je ne peux pas choisir ça, je veux choisir autre chose. C'est ces trois choses qui font perdre la naïveté aux Juifs. Et c'est pour ça qu'il devient un choté. Il est en dehors du rang. Parce que le vrai système, c'est pas un système qui produit des gens qui sont dans un rang. C'est un système qui produit des gens qui ont des références. Mais qui ne font pas partie du système. On doit pouvoir avoir une référence, mais on ne doit pas pouvoir être simplement une partie d'un système. Lorsqu'on est partie d'un système, c'est qu'on ne remet plus jamais les choses en cause. Alors qu'on devrait pouvoir les remettre en cause à chaque instant. Si on a trouvé de quoi pas remettre en cause, c'est que ou on a perverti le système, ou qu'on a tellement élaboré un nouveau système qu'on est très content derrière. Quand il y a marqué Patar Tiani le Dodi, tu dois t'attendre que Dodi Hamakavar s'en va. Tu as bien voulu toi revenir et faire, tu vois, mais on n'est pas là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de système dans lequel revenir. Bikashtiv velon etsatiu. Curatif, velo anani. C'est pas que ça marche comme ça. Tu dois pouvoir vivre avec toutes ces questions-là. Comment je vais réussir, je ne sais pas. C'est difficile. Il nous reste à expliquer ce petit problème-là. Qu'est-ce que ça veut dire Nafiyat Zavodam? La Gemara dans le traité de Shabbat, elle explique, elle dit la seule vraie rencontre qui a eu lieu entre Dieu et le peuple juif, elle s'est mal passée. C'est le Har Sinaï. Ou quoi? Ou au bout de deux commandements, et juste au milieu, si mon cher Abedin, ça suffit. Daber Ata. Pourquoi dit la Gemara? Parce que au moment où Akadosh Baruch Hu a parlé, les Juifs se sont sentis défaillir et ils étaient sûrs de mourir, comme il y a marqué Nafshi Yatsa Bedavorim. Alors on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. C'est que l'homme n'est pas bien équipé pour rencontrer le monde. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas bien équipé? Parce que s'il était bien équipé, il n'aurait plus besoin de ce qu'on appelle la prière, le choix. Quelqu'un qui est vraiment équipé, il n'a pas besoin à chaque instant d'avoir une petite épreuve, d'avoir un choix devant lui et d'être le décideur. S'il a besoin de ça, c'est que il n'est pas bien équipé. Mais celui qui serait déjà arrivé à ce à quoi il doit arriver, il n'y a plus de peur qu'il a fait avec le monde. Pire que ça, les Chachamim nous disent, celui à qui on a fait un S, c'est-à-dire celui qui pense avoir vu le doigt du bon Dieu, Menakim lo mizruyotav. On lui enlève de ses mérites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta avoda, on t'a privé de Bechira, on t'a privé de libre arbitre. On t'a forcé un petit coup de pouce. Donc, les mérites que tu avais, parce que tu étais arrivé grâce à tes efforts, là, tu n'auras plus de mérite. Pourquoi? Parce que le bon Dieu t'a laissé voir. Si on était obligé de reconnaître la présence divine dans le monde, on n'aurait plus de mérite. Celui à qui on est obligé de le reconnaître, on lui a enlevé ses mérites. C'est à ce point-là. Ça veut dire qu'on n'est pas équipé de rencontrer le bon Dieu. Parce qu'on est petit et on a besoin de s'élever. Mais le jour où on est équipé, oui, on peut s'en aller. Il y a un seul jour où c'est arrivé. Le jour où HaKadosh Baruch Hu a donné la Torah. Ce jour-là, il a trouvé nécessaire d'être perçu par le peuple juif. Ça veut dire que c'est un jour où il n'y a plus de Bechira. Et on pensait que la vie était terminée. Parce que c'est un moment où la vie telle que nous l'a connue, elle n'existe plus. Puisque la vie, elle n'est faite que de choix, et elle ne fait que de cacher à l'homme l'existence de Dieu. Si quelqu'un vit en ayant une connaissance absolue et une vie absolue de la présence divine, c'est qu'il n'est pas en train de vivre. Il perd son temps. Son Rishi Moshe Rabbeinu nous a dit, ça continue, nous on a tout perdu. Daberata, pourquoi peine d'amout? On va être des gens qui n'auront plus rien à voir avec ce qu'on appelle le Nisayon. On veut rester des petits plutôt que d'être des grands. Parce qu'en étant des grands, on va perdre tout le mérite d'avoir grandi ou de grandir un jour. C'est pour ça que il est écrit dans les Pirkei Avot, Yafé Sha'achat Shel Tshuva Uma Asim Tovim Be'olam Hazeh Mikol Chelkei Olamot Mikol Chayei Olamot. Une heure d'accomplissement de la Torah de Mitzvot dans ce monde-ci, c'est meilleur que toute la vie du monde futur. Et pourtant, le Pirkei Avot est venu de dire Yafé Sha'achat Shel Korach Ruach Be'olam Haba Mikol Chayei Olamot. Il vaut mieux une heure de monde futur que toute la vie de tout le monde dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu regardes la Korat Ruach, ça veut dire la satisfaction. Alors évidemment, une heure de l'homme en bas, c'est plus de satisfaction que tout le ramazé. Parce que dans le ramazé, un homme est toujours coincé quelque part. Mais si tu regardes, il y a fait, combien objectivement ça va te servir pour toi, alors il vaut mieux une heure dans l'olam hazeh où tu peux grandir que tout l'olam haba où tu ne peux plus jamais grandir. Ça veut dire que lorsque quelqu'un perçoit des choses qu'il non seulement ne peut pas nier, mais qu'il ne lui demande pas de avoda, ça ne lui demande pas d'effort, c'est la mort. Donc ils sont chez Moshe Rabbeinu, nous lui ont dit, si HaKadosh Baruch Hu continue, alors Moshe Rabbeinu a continué. C'est pour ça que la Torah a 613 mitzvot, mais que le mot Torah, c'est 611. Parce que les deux premières ont été dites par HaKadosh Baruch Hu, Anokhi, Velo Yelochem. Donc le mot Torah a 611 valeurs numériques. Alors que les mitzvot sont 613. Parce que Moshe n'a dit que 611 mitzvot. Quand je vois qu'on a dit deux. Donc voilà, on peut comprendre ce qui est marqué ici. Nafshi yatsa bedavur. Patachti ani vedodi vedodi hamakava. Lorsque j'ai ouvert, HaKadosh Baruch Hu, lui, il était déjà parti. Nafshi yatsa bedavur. Une fois, j'ai réussi à percevoir quelque chose. Et à ce moment-là, c'était pas pour moi. Pourquoi? C'est là où on voit comment le système il est obligatoire. C'est que si en vérité tu ne vis pas dans ce monde-ci, on est obligé de te cacher la présence divine, et tu es obligé de travailler. Et donc tu es obligé de t'accrocher à un certain système de mitzvah et de avera. Alors tu vis dans le Mabba, Nafiyatza. On ne peut pas percevoir Dieu de la façon la plus parfaite et avoir un intérêt dans la vie. C'est impossible. On a d'intérêt dans la vie que lorsqu'il y a des choses qu'on ignore. C'est-à-dire que si quelqu'un lui proposait aujourd'hui, on lui dit, tu vois, on va t'emmener dans le Gan Eden, et comme ça, tu vas voir comment tout se passe. Il doit savoir que s'il est d'accord, c'est sa fin. Il n'y a plus intérêt. On doit rester tamim, on doit rester naïf. On doit vivre dans le système. Tu ne peux pas sortir du système. Nafshi yatsa bedabo. La seule fois où on est arrivé à se rencontrer avec le bon Dieu, il a fallu arrêter les... Ça ne peut pas marcher. Les seuls qui peuvent marcher, c'est les Nevi'im. Parce que le Navi, on lui donne des ordres. Le Navi, on l'utilise, le prophète. Ce n'est pas pour lui solutionner des problèmes. Et on n'est pas tout le temps Navi. Machenken, le Stam d'Israël, il est impossible qu'il puisse vivre avec la présence divine. Donc maintenant on va commencer à comprendre. Patarti ani le dodi, veu dodi chamakava. Patarti ani le dodi, je me suis engagé. Ça veut dire que j'ai adhéré à un système. Veu dodi chamakava. Tu ne peux pas compter sur lui pour chaque fois être là et t'effacer parce que tu sais qu'Akash Bokhu est solaire, Akash Bokhu est mkhaper. Nafshi yatsa bedabo. On est obligé d'avoir un système où Dieu n'est pas là. Parce que lorsqu'il est là, c'est toi qui ne peux plus t'élever. Bikashtu velo metsatiu. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. On a dit quoi? Il y a des questions qui font que tu peux aller chercher et tu ne trouveras pas. Pourquoi? Parce que tu ne trouveras que si tu es à l'intérieur de ce système-là. Comment est-ce qu'on est à l'intérieur de ce système? C'est qu'on accepte. On va donner un exemple. Il y a quelqu'un, il se dit, voilà, cette mitzvah est trop dure. Ça, je ne peux pas le faire, je ne me vois pas faire ci, je ne vois pas faire ça. Je dis donc, tu te juges de l'extérieur et tu perds ta naïveté parce que ce que tu le fais en tant que décision que tu as prise avant. Donc tu rentres dans un système, tu sors du système de la Torah, tu t'appelles Choté, tu es rentré dans une nouvelle chita. Voilà. Voilà comment on a défini les choses. Très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va pas? C'est que toi, quand tu as cherché, tu voulais une garantie. Metsatiou, ça veut dire quoi? On croit qu'on n'a pas d'épreuve à faire. Pire que ça, on est toujours en train de chercher comment faire pour ne pas se fatiguer. Et en même temps, on se rend compte que si on ne se fatigue pas, on n'a plus raison de vivre. Et quand même, on continue. C'est ça que je dis, si quelqu'un lui propose, va aller voir au Gan Eden, il doit dire non. Parce qu'il est interminé. Ah, donc ça va redevenir comme avant. Ça va devenir difficile comme avant, oui. Comment je vais m'en sortir? Parce qu'il faut savoir que la vie que j'ai, c'est celle qui m'est proposée d'une façon idéale par le monde. Tout le problème de ces trois trucs, c'est d'essayer de s'en sortir au lieu d'essayer de grandir. C'est vrai que quand on a peur de l'effort, on préfère faire d'immenses efforts dans d'autres sens, ou de s'illusionner, ou de se tordre la tête, ou de devenir un choté, mais pour ne pas faire l'effort. Alors que la plupart du temps, les efforts coûtent moins que tous les autres efforts qu'on fait. C'est ce qu'on appelle le rat. On ne va pas revenir avec le problème. C'est toujours le même problème. Lorsque je suis devant un effort à faire, je vais me dire, bon, c'est pas pour moi. Yom Kippour, c'est normal. Je sais très bien au fond que ça doit pas, c'est pas normal de faire comme ça. Que j'ai perdu tout rapport avec la mitzvah. Où je me dis, je vais le faire. Qu'est-ce qu'a fait le monde des vampires? Qu'il punisse. Ça fait plaisir. Alors je dis, ça fait pas partie de mes... Je connais pas cette mitzvah pour l'instant, moi je suis pas... Je fais partie du groupe tel. Je peux pas. Voilà. C'est la peur de l'effort. Et la peur de l'effort est tellement grande qu'on est d'accord de pervertir tout le système dans lequel on est, de devenir racheté à cause de ça. On devient un calculateur de sa propre vie. On ne vit plus avec naïveté. On ne fait plus les mitzvot avec simra. On fait parce qu'on a décidé qu'on faisait partie de ce truc-là. C'est pas comme ça. Chaque mitzvah, c'est une découverte. Chaque mitzvah peut avoir des couchottes, des... On peut et on doit pouvoir ne pas être sûr de soi dans les mitzvot. C'est pas que c'est grave. Mais on ne doit pas élaborer un système. Si on le fait, c'est parce qu'on a peur. Et malheureusement, la vie est faite de gens qui ont peur de la vie. Et c'est ça le grand problème. Ils ont peur de la vie que le monde leur propose. Pourquoi? Parce que ils ont des schémas différents. Et l'effort d'annuler leur propre schéma fait que la vie que le monde leur propose, ils n'en veulent pas. Elle leur fait peur. Donc, on va se trouver n'importe quoi de l'autre côté. Non, la vie, une fois, voilà. Il y a marqué Achaïm va m'avec le fanecha. La vie et la mort sont devant toi, tu choisis. Qu'est-ce qui se passe avec celui qui dit, ben j'en ai marre, maintenant je choisis la mort. Qu'est-ce que je peux lui répondre? Ça y est, c'est trop dur. Je suis obligé de lui dire, le brit avec le peuple juif, c'est que tu seras toujours dans la vie. Et qu'un jour, il faudra se mesurer à ça, parce que c'est ça le plan du bon Dieu. Alors ça ne sert à rien. Vous comprenez? C'est ça le plus dur. Et le plus dur, c'est qu'il faut comprendre. C'est ça la nature du rat. C'est de faire partie de ça. De se dire qu'on fait partie de quelque chose et qu'on n'a pas tout à dire et qu'on ne peut pas tout décider ni tout faire. C'est la chose la plus dure. Et c'est ce qui fait le plus peur. Si vous regardez un petit peu, aujourd'hui vous allez voir que comme la plupart des astrophysiciens vous parlent des jours de la création, ou des Big Bang, du début de la création, alors vous avez plein de livres qui fleurissent pour vous prouver que la création est un hasard. Et qu'il n'y a pas de Big Bang, que la théorie est fausse, et qu'il n'y a pas de début, et qu'on n'arrive pas à le prouver, même si c'est prouvé, ça ne veut rien dire parce que ça, ça et ça. Pourquoi? Parce que les uns sont obligés de dire que c'est quelqu'un qui a créé le ciel et la terre, c'est pas un hasard, il y a une volonté. Et s'il y a une volonté, il y a toujours la même question. Moi, je fais partie de cette volonté, et je dois trouver quelque part le mode d'emploi. S'il n'y a pas de volonté, c'est le FKR, c'est le hasard. Et bien, lorsque vous lisez les théories qui font qu'on arrive à ce que ça peut être et concevoir que c'est dû à un hasard, elles sont tellement difficiles, tellement longues à assimiler. Et elles ont tellement peu de chances d'être vraies qu'il faut se tordre la tête juste pour ne pas démoniser ça. Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim ve'et Haaretz. Ça veut dire quoi? L'esprit simple de l'homme pense que, puisque tout est harmonieux, ça ne peut pas être les résultats de différents hasards. Et de dire que c'est le résultat de un hasard et pas de beaucoup de hasards, c'est déjà dire qu'on ne peut se permettre qu'un hasard, donc c'est faux. Parce que qui dit un hasard, dit des milliards de hasards. Alors si c'est comme ça que tout vient par hasard, pourquoi est-ce que ma nourriture se trouve sur la terre? Pourquoi est-ce que je suis adapté à mon environnement? Parce que tout est par hasard. Ça c'est la Sora. Un enfant comprend ça. Non seulement il comprend ça, mais lui-même, il va trouver normal de comprendre que puisque les choses s'articulent si bien, c'est qu'elles sont pensées. Puisque le hasard, c'est le contraire de la cohésion. Mais on va dans le sens de la cohésion, on ne va pas dans le sens contraire. C'est comme ça qu'on comprend. Plus on grandit, plus on découvre que même dans les atomes, c'est comme ça. C'est qu'il y a un ordre incroyable. Après, on vous dit qu'il y a des quartz, des machins et des trucs. Ça devient de plus en plus petit, et ça devient de plus en plus orchestré. Quand c'est dans le grand, c'est encore pire. On dit, là, il y a des milliards d'étoiles, et peut-être des milliards de galaxies, et des milliards de soleils, et chacun il a son truc, chacun est organisé, et chacun il est. On dit tout ça par hasard. On a tous les mêmes mois du hasard, mais avec deux ou trois formules, tu arrives à gérer depuis les astrophysiciens jusqu'au petit chimiste qui n'est pas possible. Et où est-ce possible? Donc quel est le plus simple? Et ainsi, il s'appelle le corps de Turing. Et il dit, tu donnes un enfant à choisir, il te choisit. Seulement dès qu'il faut s'engager, il faut dire donc, s'il n'y a pas d'hasard, c'est qu'elle est derrière, et dit, il faut commencer à s'intéresser, savoir qu'est-ce qu'elle va vouloir de moi, alors on devient très intelligent, et on va commencer à trouver une infinie de possibilités de dire qu'en vérité c'est l'hasard. Pourquoi? Parce que ça rassure plus que le contraire. Non, non, mais c'est pas vrai. Le hasard, c'est ce qui fait le plus peur. Moi, ça me fait une peur horrible. On me dit, vous êtes là par hasard. Donc, je peux partir par hasard, il peut m'arriver tout par hasard. Mais c'est de la folie. On devrait avoir une peur horrible. Et un genre, tranquillement, on vous dit, non, non, le hasard, il est pas si mal fait, le hasard, regardez. Aujourd'hui, l'espérance du hasard, c'est 86 ans pour les femmes, 79 ans pour... Tout ça par hasard. Sinon, c'est pas possible. Chaque fois que tu parles du hasard, ça fait peur. Le hasard, c'est ce qui fait qu'au coin de la rue, il y a une voiture qui... Comment on s'accommode avec cette idée de hasard et cette idée de vie? C'est que tout est meilleur que de se dire, hein, mais peut-être tout ça, ça est écrit dans un but. Et s'il y a un but, on peut faire. Je me quel est le plus rassurant? Mais je dis, non, c'est le hasard qui est le plus rassurant. Comment c'est possible? Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne voit pas loin. Si on voit à très petite échéance, alors ils ont raison. Pourquoi? Parce que ça me permet quelque chose de très méchant, de très égoïste, de très cruel. Mais ça me permet une philosophie que les Chazal appellent Nochal Venishte Kimachal Amalut. Faisons la fête parce que demain on va mourir. Et ceux qui sont déjà en train de mourir, qui leur a demandé à eux de faire la fête? Qui leur a demandé? Eh, tout le monde ne peut pas tout. C'est ça le hasard, mon vieux. Vous comprenez? Celui qui refuse ce système-là, il va se dire, ah, le monde veut quelque chose de moi. Oh, je suis engagé. Ça, c'est embêtant. Parce qu'il n'y a plus Nochal Venishte Kimachal Amalut. Mais il y a un ordre. Qu'est-ce que va faire l'homme? Il va essayer de sortir tout le temps de cet ordre. Parce que, il s'est dit, c'est dur. Regarde l'autre, il mange, il boit. Et moi, j'ai une difficulté. Et celui qui comprend que le hasard, c'est faux. Et qu'il a exactement la vie qui a été choisie pour lui. Dans le meilleur des cadres. Et de la façon optimale, il comprend que c'est la seule chose qui rassure. Moi, ça m'a toujours fait-il dans ma tête, quand les gens venaient chez moi et vous disent, vous avez la chance d'être religieux, vous, parce que comme ça vous êtes confortable, vous n'avez peur de rien. C'est marrant. Alors pourquoi tu n'es pas religieux? Vous comprenez comme si l'autre vous disait, parce que moi je voudrais bien être candide comme vous, sinon je suis intelligent. J'arrive pas. Mais c'est pas vrai, c'est le contraire. Mais pour vous enfermer, on vous dit, vous avez la chance, c'est religieux. Et on vous dit, et puis c'est trop confortable, cette croyance. Nous, on assume. Tu assumes quoi? Tu assumes que tu vas du hasard, que tu ne dois rien à personne. Pourquoi? Parce que, où est-ce que tu assumes? 100 fois les doigts. C'est le contraire. C'est celui qui ne veut pas assumer ça, parce qu'il a tellement peur d'être obligé de faire des efforts et de se construire, de le construire, qu'il préfère la petite vie. Et il n'a plus de couchotte. Ça aussi, c'est bizarre. Comment est-ce que tant de gens peuvent vivre devant la misère, devant la maladie? Il n'y a aucune question, il n'y a rien qui te trouble. Tout va bien, bon, franchement. Juste le mondial, la grève, c'est tout. À part ça, tout va bien. C'est pas possible. D'où vient cette quiétude? Ça masque une grande peur. C'est qu'en vérité, on ne veut pas se mesurer au problème. Alors, on masque, on essaie de donner un vernis. Celui qui a juste un petit peu de courage d'essayer de s'intéresser à ce que la Torah lui demande, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il va avoir peur. Pourquoi? Parce que l'enjeu existe. Mais d'un autre côté, il est rassuré. C'est qu'au moins, il peut donner un sens aux choses. Alors que si je ne suis pas d'accord avec ça, je n'ai pas de sens à donner aux choses. C'est pour ça que on ne peut pas inventer une sorte de judaïsme. Et on ne peut pas dire à quelqu'un, vous devez être comme ça, vous devez être comme ça, vous devez ressembler à ça, on doit être ceci, on doit être cela. C'est des choses qui n'existent pas. On doit pouvoir vivre avec ce qu'on appelle la tmimut. Tmimut, ça veut dire la naïveté. Avec une vraie question, et des vraies réponses. Et de temps en temps, une question sans réponse. De temps en temps, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de réponses sans question. Ça arrive aussi. C'est pas grave, ça va venir en plus. C'est vrai, je ne regarde pas. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a des questions, des réponses, et on sent qu'elles sont appropriées, mais on n'arrive pas à trouver la question. Pourquoi on n'arrive pas à trouver la question? Parce que, en même temps, la réponse est quelque chose de plaqué qu'on sent, mais on ne sait pas en réponse à quoi ça vient. Et on peut attendre, on peut vivre comme ça, déstabilisé, c'est pas grave. Mais au moins, on sait que l'effort qu'on fait, il a un sens. Alors que si on vit stabilisé en disant que rien n'a de sens, et de toute façon, le hasard peut vous faire. En quoi il y a de la stabilité? Il n'y a rien du tout. Je ne sais pas. Mais... Donc, il y a sûrement des questions. On y va. Allez-y.
Oui, très bien, oui. Je veux dire, même les tzadikim, il paraît qu'il faut, puisqu'ils meurent.
Absolument.
Un juif moyen, il progresse, mais il est en partie...
On est tous des juifs moyens.
Plus ou moins moyen. Il est très moyen. Alors, un juif très moyen, si vous voulez, il fait des mitzvot, il progresse, mais bon, en partie,
bien
les
sûr.
Mitzvot, il dit c'est là, je n'arrive pas, j'ai essayé, ça ne l'achète pas.
Bon, chacun, d'accord.
Il y a un grand chantier.
Ouais.
Et si on est un peu réaliste, quand on voit les gens qui nous quittent, ben, ils n'ont pas terminé leur chantier. Il y a des chances que le chantier, on ne va pas le. Bon, je ne sais pas, peut-être que c'est pessimiste. Enfin, je veux dire, Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un ordre de priorité. Il faut dire, bon, je vais regarder les mitzvot les plus importantes, le karet, machin, je fais quoi? Je fais comme si je vivrais jusqu'à l'éternité, j'attaque tout. Enfin, bon, qu'est-ce qu'on... Ou c'est là, je la laisse de côté, on verra après. Ou ben non, il faut se battre partout, tout le temps. Je sais pas.
Alors, je vais essayer de vous répondre. D'abord, il faut se battre partout et tout le temps, toujours, de toute façon. Mais maintenant, on va voir comment je vais vous dire. On est obligé de faire des choix, c'est vrai. Moi, ce qui me désole, c'est lorsque les choix sont faits par les choix de groupe. C'est ça qui me désole. C'est-à-dire que selon le groupe dans lequel on veut s'intégrer, on fait telle et telle mitzvot et les autres on les laisse de côté pour l'instant. Donc le fait de faire des choix, ça ne me cause pas de véritable problème. Il est évident que on s'attaque toujours aux choses dont on voit qu'elles sont les plus importantes, que ça ne viendrait pas l'idée de quelqu'un, je ne sais pas moi. Le Shabbat, tout le monde sait que c'est important. Yom Kippour, tout le monde sait que c'est important. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est vendre des mitzvot pour les autres. Par exemple. Des gens qui viennent, ils vous disent, Bon, moi, je suis pas tellement religieux, mais je suis plus sage, ça. Comme si c'était le fait qu'il était religieux qui a empêché les autres. Vous comprenez ? C'est-à-dire que la plupart des gens qui font des choix, c'est toujours pour se permettre quelque chose en attendant. Si c'est pas dans ce sens-là, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on peut pas tout faire en même temps. Et on peut pas évoluer exactement d'une façon planifiée. Ce qu'on ne doit pas faire, c'est sacrifier une mitzvah à l'autre. Et de dire, je préfère ça plutôt que ce soit, parce que ceux dans ce genre, ils sont mieux que ceux-là, ils sont... Vous comprenez ? Ça, on peut pas le faire. Ou alors, ce qui n'est pas bon dans les choix non plus, c'est de mettre des choses qui sont des minagim ou des choses qui sont vraiment pas importantes. Et de s'y attacher, alors que dans les choses principales, on a des problèmes. Moi, souvent, je suis sidéré. Des gens qui me demandent, voilà, quel jour dans la semaine on peut se marier ? Enfin, par exemple. Et après, il me dit, Inocella, est-ce qu'on parle au mikvé le samedi après-midi ? Je dis, comment vous voulez ? Il faut aller au mikvé avant de se marier. Est-ce qu'on paye le samedi après-midi ? Je dis, quoi, vous n'êtes pas chômeur Shabbat ? Non. Alors, je vous promets que tous les jours de la semaine sont bons. Comprenez ? Il y a des choses. Ça veut dire que on ne doit pas s'attacher à des choses qui sont insignifiantes lorsque on n'est pas capable de s'adonner aux moins grandes choses. Parce que les grandes choses, c'est des choix. C'est une fois, c'est deux fois, mais c'est des choix. Pas qu'on a fait le choix, mais... Alors, on peut être perdu dans des petits trucs et des minagim et des machins et des casseroles et des trucs, alors qu'au fond, le principal n'y est pas. Et pourquoi il n'y est pas ? Parce que on se sent tellement bien dans ces petites choses-là que les autres choses, on leur donne une importance qui n'est pas plus. Au fond, on doit savoir quand même qu'est-ce qui est plus important et qu'est-ce qui est moins important. Et ne pas se rassurer avec tous ces petits trucs-là. Vous comprenez ? Les choses qui sont importantes seulement dans le sens de c'est bien à comprendre, c'est bien, mais dans l'ordre de la race, pas important. Et la plupart des gens, c'est des choses qui gênent personne. Vous comprenez ? Ça, non. Ça veut dire que les mauvais choix, on ne peut pas les faire. Quels sont les bons choix ? C'est difficile à dire. Il faut voir pratiquement comment ça marche. Mais normalement, c'est plus les choses, elles sont de l'ordre du normalement grave ou normalement important, et plus on doit faire attention avant d'essayer les autres choses. Maintenant, je vous dis, il ne faut pas faire le contraire non plus. De dire, de toute façon, je ne peux pas manger Shabbat, à quoi ça sert que je mange cachère ? À quoi ça sert que je mette cette fille ? À quoi ça sert ? Bon, si on fait ça, alors, ce que tu peux, fais-le. Mais de pas faire le Shabbat et de manger cachère, c'est une absurdité. Et pourtant, il y a énormément de juifs qui ne mangeraient jamais taref et qui ne sont pas chômeurs Shabbat. Si on regarde du rôle de l'importance tel que c'est décrit dans la Gemara, c'est une absurdité. Parce que la cacheroute, ça n'a aucun rapport avec le Shabbat. Dans tout. Donc il y a quand même une importance à donner aux choses plus graves et moins graves. Mais de faire des choix et de dire je sacrifie ça avant, ça. Et moi je crois aussi que la vie propose des choix. Des choses qu'on n'a pas besoin de faire soi-même, ça vient. Au fur et à mesure, c'est la vie qui propose. Non, ça n'a pas de rapport. Dans la Torah, lorsqu'on désigne une femme infidèle, on parle du mot sota, qui vient du mot shoté, qui veut dire être en faute. C'est le même mot que celui qui est shoté, qui veut dire être en dehors du coup. Lorsqu'on dit être en faute, et en dehors du coup, c'est la même chose. Mais c'est pas ni un homme ni une femme, ça n'a pas de rapport. Ça peut s'appliquer aux deux. D'être en dehors du système, c'est une folie.
Et je pensais plutôt à Rahel. Comment il se dit, ça lui convient, comment il va avec cette explication ?
Je sais pas.
Et comment la Torah, quand on dit quand on néglige une seule mitzvah, c'est comme si on laissait tomber toute la Torah.
C'est quoi si ?
Quand on néglige une seule mitzvah, c'est comme si on laissait tomber toute la Torah.
Ça, j'ai pas vu. Il faut voir où c'est marqué ça. Dans quel sens et comment, ça je sais pas. Ça je sais pas. Une ligne ça comme ça reste tombé toute la temps. J'ai pas vu, si vous me montrez. Ça, il faut voir dans quel cas on parle exactement. De quoi ça parle? Attention, ça peut parler de celui qui dit, moi je fais 612 et pas 613. Cette Torah n'intéresse personne. Elle a 613. Attention, c'est pas parce que je ne suis pas à faire une mitzvah que je vais avoir une Torah. On parle dans le principe. Celui qui définirait la Torah en disant, il n'y a que 612 qui m'intéresse, la 613e m'intéresse pas. Alors bien qu'il s'agisse que d'une, tout le reste, c'est pas de la Torah. Dans ce sens-là, oui. Mais pas dans le sens que je n'ai pas réussi à faire une, ou que je ne m'appuie pas à faire une, c'est comme si je ne faisais rien. Il ne faut quand même pas tout réduire à ça. On parle dans le système, ça peut être. Vous comprenez? Ça, c'est autre chose. La folie, ça peut être une étape. Mais il faut juste savoir que c'est de la folie. Donc, ça veut dire qu'on est en dehors du système, c'est pas un système en soi.
On peut le savoir après seulement.
Par exemple. Mais on peut le savoir même sur le moment. Encore une fois, la Gemara dit Amar Esh Lakish, En Adam Khoté, Elaim Ken Nichan Sabor Warshtout. Ça veut dire un homme ne faute que si un vent de folie est entré en lui. Ça veut dire qu'au moment où la faute n'est pas normale. On a demandé. Et lui, Resh Lakish, il vient d'Ili, ça vient du mot. Que Ish qui tistait, Ishtop. Donc une femme qui faute, on appelle ça Sota. Donc il appelle ça Warshtout, un vent de folie. Cette femme-là, pour aller en dehors du système pour fauter, c'est qu'elle était entraînée par un vent de folie. On parle du Mézid, attention, moi je ne parle pas de quelqu'un qui a fait sans savoir. Je parle de quelqu'un qui a fait tu vois, ou quelqu'un qui a toujours été religieux. À partir du moment où il fait une avéra de Mézid, il décide de la faire, c'est que c'est un vent de folie. Qu'est-ce que ça veut dire un vent de folie? C'est ça qu'on a dit. On a dit il y a trois directions. Ou de dire, on a perverti le système parce qu'on dit, face à la Torah, elle-même, elle va me trouver la solution. Et Yom Kippour, il est mort à peine. Donc, je suis clair, je fais tout ce que je veux. Ah, Yom Kippour, j'ai accaparé, j'ai qu'à pleurer. Ou celui qui dit que il n'est pas capable de faire les mitzvot et qu'il arrive que pourra, lui, il fait ça, il ne fait pas ça. Ou le troisième, c'est que ça lui est tellement difficile qu'il préfère un BOH. Parce qu'il n'arrive pas à se mesurer les choses. Donc ça veut dire qu'il ne croit pas au système. Lui, c'est un raisonnement de fou. Parce que c'est un raison qui n'existe pas. Parce qu'on ne veut pas sortir du système. On ne lui propose pas une chose qu'il n'est capable, qu'il n'est pas capable. Ça ne veut rien dire d'être d'accord avec tout. Je m'en fiche de tout, mais ça, je ne peux pas. Ça ne peut rien vouloir dire si on n'aurait pas proposé cette question.
Vous parlez d'une
réalité
qui est branchée de manière permanente, et c'est la seule solution qui peut me sauver.
Ça, je ne sais pas qu'est-ce que veut dire permanent ni branché, mais...
Non, c'est beaucoup par les mitzvot.
D'accord, mais moi, ce que je parle de naïveté, c'est de dire que lorsque, à Yom Kippour, je me dis, mais c'est vachement pratique ça, c'est vu ce que je me suis permis pendant l'année, et maintenant, il suffit de faire ça, et ça marche, c'est ça, celui qui a dit, « RTV Yom Kippour, me rappelle. » Vous comprenez? Par exemple, par exemple. Mais ça, c'est ça ce qu'on appelle le vent de folie. Le vent de folie, c'est que on se situe à l'extérieur de ce système et on croit que quand même, on est à l'intérieur. Vous comprenez? C'est de ça qu'on parle. Ça, c'est pas possible. Ouais.
Les frontières du système, vous avez évoqué. Alors, par exemple, on a dit
Je sais. Danser.
Donc, d'abord, je suis un paradoxe.
Ou de laisser entrer. Là, on parle de laisser entrer.
Oui. Je suis un paradoxe. C'est que pendant que moi, je laissais entrer, je pouvais que la personne à l'eau, lui, est sorti. C'est paradoxal. Parce que le système, je pense que l'auto est à la voie de route, ne peut pas sortir du système. Et vous-même, vous m'avez dit que moi je ne peux pas en sortir. Jour de l'an. Ça va être tout dehors. Alors comment puis-je être dehors pour rentrer dans un système dont je suis jamais sorti? Et comment faire de voie de route peut-il sortir d'un système et penser autour de lui quand il ne peut pas sortir? C'est la première question. Mais surtout, je veux parler de la frontière du système. Alors la frontière du système, c'est quoi? La frontière, c'est-à-dire la corbeille rougeante, où je sors. Je voudrais vous souligner une chose, c'est qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est que celui qui est dans le système, il est dans la stabilité du système, et donc il est tout de même assez... Il est bien. Il est bien, c'est bien. C'est-à-dire qu'il suit ses misvoles, il les comprend, il fait de son mieux. Il y a aussi un autre paradoxe, c'est celui qui endure...
Attendez, vous dites qu'il est bien péjorativement ou il est bien...
Non, je dis empathiquement, c'est-à-dire que je l'approuve.
Parce qu'il n'est pas vraiment tellement bien. Il n'est jamais sûr d'être...
On peut discuter, mais il est dans son cheminement, il est dans sa logique, il est dans le système.
C'est ça, il est dans une logique.
Il arrive dans une logique, il le suit, qu'est-ce qu'il peut. Donc ça, on peut comprendre, cette stabilité-là, cette simra, cette logique de la simra des médias.
Absolument.
Bon. Celui qui est en dehors du système, c'est là. Et c'est un peu symétrique. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, la néantilation de ce système. C'est-à-dire que je ne crois plus à ce système. Donc je suis heureux. Je ne crois plus. Donc je ne crois plus automatiquement à la Teshuva. Je ne crois plus à la punition, je ne crois plus à rien. C'est pour ça que naïveté peut-être. Mais surtout, je ne crois plus à rien. C'est-à-dire que, et finalement, étant extérieur à la Teshuva et au système, je peux avoir une certaine stabilité. Donc où vient l'interrogation et la souffrance quand je commence à changer de système? C'est-à-dire quand j'essaie de passer cette forme.
Absolument.
Et à ce moment-là, que j'en sorte tout fichant, c'est une remise en question qui fait souffrir. Pourquoi? Quand je suis dehors, j'essaie d'entrer dedans. À ce moment-là, c'est-à-dire que je vais vers les misvot. Mais à ce moment-là, je suis dans un état intermédiaire où je n'ai pas encore rencontré Dieu, mais où j'ai déjà quitté mon système précédent. Et je suis dans un état d'instabilité, et c'est pour ça peut-être que Dieu est sorti, entre guillemets, c'est-à-dire que je n'arrive pas à le percevoir. Je sais que j'étais dans l'erreur, mais je ne sais pas quelle vérité je vais trouver. Et c'est ça peut-être la réponse à sa sortie de Dieu. Il est toujours dans le système, et moi je ne le vois pas. Il est moins complètement pour moi. Par contre, quand je sors du système, à ce moment-là, je suis dans ce que vous avez évoqué, à savoir, je sais qu'il y a un système, je sais qu'il y a un système religieux, je sais donc qu'il y a une teshuva, mais je me dis que cette teshuva va me servir à qui pour? Et donc j'accepte la vera vers laquelle je vais, mais je sais qu'il y a une teshuva. Je suis dans un intermédiaire.
Donc je reste au fond. Donc je reste au fond.
Et je ne suis pas pardonné.
Tiens, alors, ouais. Moi je veux juste ajouter une chose, attention. Ce qu'on a dit ici, l'iftoir, patarti, ami, le dodi. On parle de moi, je m'ouvre à Akadosh Baruch Hu. C'est de ça qu'on parle. Puisqu'on parlait avant que Akadosh Baruch Hu frappe. Et il veut rentrer, et c'est à toi de le laisser entrer. Ça veut dire que la conscience de la mitzvah, c'est à l'homme de se la forger. Quelquefois, il peut ouvrir, et il n'arrive pas à trouver un Kadosh Baruch Hu. D'accord? Alors je dis pourquoi? Parce que c'est ça son problème. C'est que la...